Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frontend Chronicles, épisode 12. Je suis Benjamin Ozano et je co-anime toujours ce podcast avec Denis Souron. Bonjour à toi Denis, comment vas-tu ?
Et bonjour à toi Benjamin, ça va super, il fait un peu chaud, on va pas se le cacher. Et on se retrouve pour un épisode numéro 12 basé sur de la génération statique si je me trompe pas.
Exactement, et comme c'est l'été et que vous êtes peut-être en vacances, vous êtes dit que c'est peut-être le moment d'avoir un peu plus de visibilité sur vos compétences, sur vos créations, et pourquoi pas eh bien, se lancer dans un site web, ou un blog, ou encore même une belle documentation pour vos side projects.
Et ça tombe à pic parce que septembre arrive bientôt, on veut se démarquer évidemment, on veut aussi montrer ce qu'on sait faire, etc. Et donc, on tombe au bon moment pour les prospects.
Exactement. Et comme vous êtes dev, et que des fois quand on est dev, on n'a vraiment pas envie de se casser la tête et on se focus sur l'essentiel, c'est-à-dire le contenu, et on n'a des fois pas vraiment envie de passer beaucoup de temps sur tout le reste.
Et oui, c'est un problème que moi j'ai souvent eu, par exemple, pour lancer mon blog, parce que en fait, j'avais envie de faire un beau visuel et tout ça à côté, mais j'avais aussi du contenu à proposer, et donc je retardais la sortie de ce contenu-là, à cause d'un manque de visuel, et je trouvais pas ça satisfaisant en fait d'envoyer un visuel qui n'était pas au niveau. Et aujourd'hui, on va discuter de solutions qui existent, qui se concentrent vraiment sur le contenu. Donc, par exemple, on écrit des articles en Markdown, donc vraiment un format de notation, etc. Et ensuite, on peut générer notre blog à partir de ces articles-là. Et l'avantage, c'est que toute l'interface, toute l'ergonomie et tout ça est construite par un outil qui s'occupe de tout et qui a déjà pensé aux choses assez classiques. Et nous, ça nous permet de nous concentrer dans un premier temps sur le contenu. Et après, on pourra faire un portfolio qui, là, possède toutes les magnifiques animations CSS qu'on aime tous.
Là où on a gagné du temps, on va en perdre pour faire des animations. Alors, ce podcast va faire écho à celui qu'on a déjà fait sur la Jamstack, puisqu'on a parlé des différents modes de rendu. Et aujourd'hui, focus sur le mode de rendu SSG, Static Site Generator. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre sur le site jamstack.org/generators. On vous mettra le lien dans les notes de l'émission. Et aujourd'hui, on en a choisi un en particulier parce que c'est toi, Denis, qui me l'a fait découvrir. C'est Docusaurus et en particulier Docusaurus 2.0. Alors, déjà, la baseline de Docusaurus, c'est très simple. C'est construisez rapidement des sites web optimisés et concentrez-vous sur votre contenu. Et Denis, tu souhaitais en parler.
Et oui, parce qu'en plus, alors c'est rigolo parce qu'on réfléchissait déjà au sujet de cet épisode avant d'avoir cette nouvelle-là. Et en fait, Docusaurus 2 vient de sortir, en fait. Et avant, on était en version... Il y a eu évidemment une phase de release candidate, mais même avant ça, on était en bêta. Et donc moi, j'ai commencé à l'utiliser en version 2 bêta. Mais elle était déjà bien aboutie, on pouvait déjà faire pas mal de choses. Et donc du coup, ouais, c'est une solution que moi, j'ai découvert comme ça. En fait, je me baladais sur... je faisais de la veille, je me baladais sur Internet et tout ça. Et puis, je regardais les différentes solutions qui existaient. Et en fait, je suis tombé là-dessus et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et après, quand j'ai vu en fait qui c'est qui s'en occupait, j'ai compris pourquoi qu'il y avait quand même pas mal de choses dedans. Et en fait, Docusaurus s'est backupé par Meta, donc le nouveau Facebook. Et donc, du coup, on va pas les représenter, mais il y a ces backups de React et de tout ce qui va un peu autour. Et donc, du coup, Docusaurus est dans la même lignée. Donc, c'est un outil open source qui est fourni par Meta et qui fournit évidemment un certain nombre de fonctionnalités qui vont nous servir pour faire de la doc, du blog, etc.
D'ailleurs, quand vous allez tout en bas du site de docusaurus.io, vous avez un fabuleux logo Meta Open Source. Voilà.
Incroyable, hein, effectivement incroyable.
Là où j'étais étonné, Denis, c'est quand tu m'en as parlé, parce que si vous nous suivez déjà depuis de nombreux épisodes, on a beaucoup d'espoir sur le framework librairie qui s'appelle Vue.js. Et à une époque, c'était aussi très Nuxt, on a été très très hypé par Nuxt, un peu moins aujourd'hui, puisque la version 3 n'est toujours pas sortie, et moi je me suis un petit peu cassé les dents pour essayer de comprendre comment fonctionnait Nuxt en version 3.
Ouais, elle est un peu bancale encore aujourd'hui, hein, donc on sent qu'il y a besoin d'un peu de maturation, et c'est dommage parce qu'on avait quand même un certain nombre d'attentes, et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que c'est difficilement, voire pas production ready. Quoi.
Et c'est les équipes font un travail de dingue, hein, juste sur leur Discord.
Ouais, ça c'est sûr.
Il y a beaucoup d'émulsions, beaucoup de boulot sur le sujet, mais voilà. Pour en venir sur Docuserus, justement, on a très peu parlé de React finalement dans ce podcast, puisque c'était l'un des trois frameworks que l'on a le moins utilisé. Moi, professionnellement, j'en ai fait un petit peu. Denis, tu vas en faire. Justement, Docuserus a été construit en React. C'est ça, Denis, hein ?
Ouais, c'est exactement ça. Donc, ça se base sur du React. Hein. Bon, de toute façon, comme c'est Meta qui propulse ça, évidemment, ils vont reprendre des acquis chez eux. Et ouais, bah, moi aussi, ouais, j'ai pas fait beaucoup de React, notamment parce que j'ai pas eu l'occasion jusqu'à aujourd'hui d'en faire dans le monde professionnel. Et après, par rapport au framework qui attisait ma curiosité, je me suis assez peu tourné vers React parce que, bah, en fait, React fait ses preuves, il vit sa vie. Moi, je sais que je peux l'appréhender un peu quand je veux parce que, de toute façon, il y a une base de connaissances qui est phénoménale. Et du coup, bah, moi, je me suis peut-être un peu plus intéressé à d'autres choses, des choses un peu plus émergentes ou des choses un peu plus curieuses. Mais en tout cas, les fondements de Docuserus sont vraiment solides. Et donc, on va se baser sur du React ou... en fait, pour quand on sera en mode de développement, donc quand on sera en train de travailler sur notre plateforme Docuserus, bah là, on aura une SPA assez classique en React. Et après, quand on va builder pour la prod, et bah là, du coup, on va faire de la génération statique et tout ce qui va avec.
Chez Docuserus, on a 5 grands piliers, 5 fonctionnalités principales. Vous avez entendu la première, c'est construit en React. On va pouvoir faire du React à l'intérieur de Docuserus. Et on a un second axe, c'est le MDX. Et en particulier, en fait, le MDX, c'est du Markdown avec du React à l'intérieur. C'est ça, Denis ?
Ouais, en fait, ils prennent le même nom que pour le JSX, TSX. Donc JSX, c'est du JS Extended. TSX, c'est du TypeScript Extended. Et ben là, Markdown X, c'est Markdown Extended. Et en gros, c'est du Markdown dans lequel on peut jouer avec nos composants React. Et je voulais juste revenir sur la fonctionnalité quand même d'avant où on n'a peut-être pas forcément précisé assez. La plateforme est faite en React. On peut créer des composants React, mais en fait, on peut aussi faire des pages entièrement en React. C'est-à-dire qu'on peut faire d'un côté des pages en Markdown avec potentiellement dedans des petits composants React, mais on peut faire aussi carrément des pages statiques ou même des pages qui fonctionneraient comme n'importe quel SPA, entièrement en React en fait.
Est-ce que Docuserus, à l'instar de VuePress, a été fait pour de la documentation au départ ? Est-ce que toi tu le sais ?
Ouais, bah en fait, il y a un peu de ça, mais en fait je pense que vraiment le mot d'ordre c'est le contenu, c'est-à-dire que... Bah, la documentation, c'est une forme de contenu, mais le blogging, c'est aussi quelque chose qui est très axé sur le contenu, etc. Donc, on va écrire des articles et la mise en forme. Bon, c'est sûr, c'est toujours mieux d'avoir une mise en forme qui est sexy, mais le principal contenu d'une page de blog, c'est l'article qu'on a écrit dedans. C'est pas toute la coquille, c'est pas tout l'apparat qu'il y a autour. L'apparat qui est autour, c'est juste pour que ce soit à peu près élégant, mais le but premier d'une page d'articles de blog, c'est l'article en lui-même. Et donc, du coup, là, l'objectif de Docuserus, c'est de fournir tout un écosystème qui nous permette de nous concentrer sur le contenu, et donc sur vraiment du contenu rédactionnel, typiquement. Et donc, ça peut être de la doc, ça peut être du blog, mais ça peut aussi être autre chose qui peut vous servir. Ça peut être votre site personnel, votre portfolio... voilà, votre CV aussi.
Alors, on va y venir, justement, comme c'est focus sur le contenu. Troisième axe de Docuserus, c'est qu'il est prêt pour les traductions avec soit Git, soit un outil qu'ils appellent CrowdIn ou un autre gestionnaire de traduction et qui peuvent être déployés individuellement pour avoir des pages multilingues. On parle aussi de versionnage des documents pour un cas de documentation. Si votre logiciel passe de la version 1.0 à 2.0, vous allez pouvoir facilement indiquer à vos utilisateurs que votre doc va changer et qu'elle est versionnée. Et enfin, on peut rechercher du contenu grâce notamment à l'utilisation d'Algolia. Et je crois que tu as une petite anecdote sur ce sujet, Denis.
Ouais, alors Algolia, vous le connaissez peut-être, c'est un moteur de recherche qui est souvent utilisé par les gens qui... par les blogs, justement, ou les petites plateformes de doc, etc. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche Algolia du moment que vous montrez patte blanche et que votre but, c'est de partager de l'information, etc., etc. Et du coup, ouais, pour la petite anecdote, en fait, il y a une partie du site d'Algolia qui est construite avec Docuserus. Donc c'est rigolo parce que quand on va sur, sur le site qui présente Docusaurus, évidemment il est fait avec Docusaurus, et le moteur de recherche c'est Algolia, et quand on va sur le site d'Algolia, il y a une page en Docusaurus, donc c'est rigolo. La doc d'Algolia est en Docusaurus, et Docusaurus utilise Algolia, donc c'est marrant ce ping-pong entre les deux, donc on sent qu'il y a quand même une certaine proximité entre les deux.
Et justement, sur Docusaurus, pourquoi on a voulu faire aussi un sujet là-dessus, c'est que tu as lancé ton propre blog, justement sur ça, qui est actuellement en production.
Bah, du coup, ouais, je me suis lancé sur un blog, donc il est en production, mais après, j'ai pas encore trop partagé le lien, parce que j'ai encore des petites choses à ajuster, hein, comme tout le monde. Voilà, j'ai ma petite homepage qui, du coup, elle est assez vide, parce que pour l'instant, j'ai surtout fait des articles et j'ai mis les épisodes de Frontaine Chronicles dessus. Et donc,
très important.
Et très très important, évidemment, primordial même. et du coup, après, j'ai repris certains articles que j'avais faits pour mon entreprise actuellement, d'autres articles que j'ai partagés sur LinkedIn. Du coup, je les ai écrits en Markdown. Je peux complètement laisser le framework. C'est pas un framework, mais l'outil faire pour moi. J'ai pas besoin de me concentrer sur est-ce que ma pagination va bien fonctionner, est-ce que mon read more va bien fonctionner, etc., etc.
Et tu l'as déployé sur quoi du coup ?
J'ai utilisé une plateforme que j'adore qui s'appelle Vercel. C'est pas pour faire la pub, je touche pas de com. Vercel, en fait, quand on l'utilise en mode tout seul et pour son passe-temps, quoi, c'est gratuit. Donc en fait, c'est il y a pas mal de plateformes qui fonctionnent comme ça, donc en mode freemium, quoi. Donc GitHub, c'est un peu comme ça aussi, où c'est on vous montre tout notre savoir-faire, on vous laisse utiliser 90% de notre plateforme. Par contre, la seule contrainte que vous avez, c'est d'être tout seul et de pas faire du biz, en fait. Voilà. Et ça se comprend. Mais l'avantage, c'est que du coup, on a des outils qui sont hyper puissants, qui normalement sont facturés plus ou moins cher sur les projets. Et nous, on en bénéficie gratuitement. Donc Vercel, qui est une plateforme qui permet de se brancher directement sur un projet Git, qui offre aussi un système de template, etc., pour amorcer des projets. Et en fait, c'est une plateforme qui va faire du continuous deployment.
Ça va peut-être faire l'objet d'un sujet d'ici la fin de l'année, les plateformes de déploiement statiques, parce qu'on peut le faire aussi avec les GitHub Pages. Donc on peut le faire avec Vercel.
Ouais, on peut le faire avec du Netlify aussi.
Avoir une petite comparaison de ces solutions-là, parce que ça peut être justement intéressant dans la lignée des podcasts qu'on fait. Sachant que si vous lancez sur Docusaurus, vous savez que c'est totalement compliant avec Vercel.
Et du coup, je connais bien Docusaurus. Benjamin, toi, t'en as fait un tout petit peu. T'as regardé, évidemment, par curiosité, parce que j'ai pas arrêté de t'embêter avec ça. Mais je crois que toi, t'étais plus habitué à Vupress, c'est ça ?
Alors, Vupress, c'est aussi un générateur de sites statiques minimaliste, avec système de thèmes et également un système de plugins alimenté par Vue et un système par défaut optimisé pour la rédaction de documentation technique, puisque Vupress existe grâce justement à l'élaboration de la documentation officielle Vue, puisque c'est cet outil-là qui a permis de la générer.
Et du coup, on peut faire son site internet dessus, ou on peut faire autre chose peut-être ?
Ouais, de la même façon que Docusaurus, finalement, tu vas pouvoir, avec une arborescence, pouvoir générer des pages, utiliser du Markdown. Tu peux même faire de l'hydratation derrière.
Ok, ouais. Et je pense qu'on peut faire du blog, à l'instar de, on fait de la doc, on peut tout aussi bien faire du blog, je pense.
Il y a très peu de différence, ouais. Finalement, ça va être la façon de présenter, parce que du coup, chaque page, ça peut être un article de blog, et ainsi de suite. Et du coup, pour ceux qui sont dans le monde de Vue, VidPress, ça doit vous évoquer quelque chose, puisque justement, Evanew s'est dit à un moment donné, puisque j'ai lancé Vite et que ça fonctionne plutôt bien, et puisque je ne ferai pas une version de Vupress avec Vite, justement. Et donc Vupress est né, et ne remplace pas, à mon grand étonnement quand j'ai su renseigner un peu sur le sujet, Vupress. Ça existe aujourd'hui en parallèle. On a la version 1 de Vupress, et on a la version 3 de Vupress, qui est assez récente, il me semble, qui est sortie en début d'année. Il y a énormément de gens qui, aujourd'hui, experts sur la techno, ne comprennent toujours pas pourquoi il y a ces deux projets en parallèle, sachant que c'est pas la même API. Il y a VueCLI d'un côté, il y a Vite de l'autre côté. On fait pas les mêmes choses sous le capot. Et les gens se posent la question, est-ce que je dois toujours faire du VuePress ? Est-ce que je dois passer à VitePress ? Est-ce que VitePress, c'est sorti de la sandbox d'Evanew et c'est un projet qui va continuer à être évolué ou pas ? Voilà. Donc là, il y a une grande question là-dessus.
Ouais, c'est, les débats sont assez animés de ce que j'ai pu voir. On vous mettra dans les notes de l'émission un thread sur GitHub qui parle de l'avenir de VitePress. Est-ce qu'on fait du VitePress? Est-ce qu'on fait du VuePress?
C'est ça. Et il y a également un thread Reddit sur lequel j'étais passé qui s'appelle VuePress vs VitePress. Je vous laisserai à même de juger. Donc, c'est un des grands concurrents d'Ocusaurus, évidemment, parce qu'ici, on est sur la technologie Vue.
Ouais, et du coup, si on est sur la technologie Vue, comme tu disais, qu'on peut faire son site internet, qu'on peut faire du blog, on peut faire de la doc, etc., et que c'est assez proche de Docusaurus, du coup, je pense que tu as du support des composants Vue, c'est ça ?
Exactement.
Ouais, et donc du coup, ouais, c'est ce que tu disais quand tu disais qu'on pouvait faire de l'hydratation, faire une SPR, c'est très cousin, classique, en fait. Au final, c'est basé sur Vue.
C'est très cousin, ouais. Parce que derrière, quand tu fais ta doc, tu peux incorporer tes composants, justement, sur lesquels tu fais ta documentation. Voilà, t'as un système aussi de Markdown et t'as un système de composants Vue.js que tu peux intégrer dans le Markdown. Donc voilà, au final, on a quelque chose d'assez similaire sur le fonctionnement.
Alors c'est rigolo que tu parles des soucis avec VuePress et VitePress et tout ça, parce que on le sait, Evanou, il fait du bruit. Voilà, c'est quelqu'un qui est très qui a du charisme et qui s'exprime énormément sur différents médias, et puis il impose un peu son style aussi. Mais le fait qu'il n'y ait pas de consensus entre VuePress et VitePress, et qu'il n'y a pas d'avis tranché, et qu'il n'y a pas de décision qui est prise là-dessus, moi, ça me fait penser aussi à la problématique entre VueCLI et VueJS. Et c'est rigolo parce qu'il devait y avoir apparemment, normalement, Vite devait réintégrer le VueCLI.
Oui, c'est ça.
Et en fait, on n'y est toujours pas. Et c'était des choses, je crois, qu'on avait discuté quand on avait abordé dans l'épisode sur Vue. Et en fait, aujourd'hui, août 2022, oui. Et il se passe rien, quoi.
Exactement.
Il se passe rien.
Vite devait justement devait être intégré sous le capot de Vue CLI.
Ouais, c'est ça.
En fait.
Ouais.
Ces outils-là devaient être complémentaires. Au début, on avait dit que voilà, c'était vraiment deux branches séparées, mais à terme, on n'aurait qu'un seul outil qui unifie les deux mondes, à la fois Vue CLI avec le CLI qu'on connaît actuellement, et la puissance de Vite et la simplicité de Vite sous le capot. Et c'est toujours pas le cas. Et on arrive bientôt à la fin de ce podcast, mais avant de nous quitter, on souhaitait revenir un petit peu sur les autres outils qui vous permettent aussi de faire du blogging, du développement de petits sites web, ou encore une fois de documentation, en commençant par l'un des plus connus, l'un des plus anciens, Denis, je sais que tu le connais, c'est ce qui était proposé par défaut sur les GitHub Pages, et qui est toujours proposé par GitHub Pages aujourd'hui.
Si je me trompe pas, c'est Jekyll, c'est ça ?
Exactement. Si vous allez sur le site que je vous ai mentionné au tout début du podcast, donc jamstack.org/generators, encore une fois, vous trouverez le lien dans les notes de l'émission, vous pourrez voir, sans changer en fait les filtres, on a dans les 6 premiers, à l'heure où on enregistre le podcast, Next, Hugo, Gatsby, Jekyll, qui est toujours là, Nuxt et notre ami Docusaurus.
Et oui, et en fait, alors après... du coup, je pense qu'on peut faire un petit tour d'horizon sur les autres, les cinq premiers. À la différence quand même de Docusaurus et VuePress et VitePress qu'on a parlé quand même jusque-là, c'est quand même des générations statiques qui sont moins basées sur de la doc et du blogging, donc ce sera moins outillé dans ce sens-là. Par contre, c'est de la génération statique au sens large, et donc ça peut... autant être une plateforme en mode showcase, hein, on est là pour montrer, faire des démonstrations techniques de certaines choses, que en fait des choses plus terre à terre, comme la documentation et le blog. Et donc du coup là, on va avoir différents templates pour parler de ça. C'est vrai que Jekyll, on a connu ça sur quand on faisait joujou sur les GitHub Pages à l'époque où on était encore jeune et innocent. Je sais pas si tu t'en souviens.
si. Mais et justement, ce qui est assez rigolo, c'est que c'était un des seuls qui te permettait de faire ça à l'époque. Et le langage, c'est du Ruby qui est dessus.
Je ne sais pas si toi, voilà. Tu avais eu l'occasion d'utiliser Hugo.
Vite fait, au début, en fait, je m'intéressais vraiment au top du panier. Et j'ai lancé du Hugo, je n'ai pas été très très loin. Gatsby, je n'ai pas été très loin. C'est du React aussi, hein. On a un système d'arborescence, de templating. Donc du coup, ceux qui font du Next, voilà, c'est pas kiff-kiff, mais on retrouve des arborescences un peu similaires. Donc,
ouais, voilà. Next, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment impressionnant. Là, ce qui est poussé, du coup, c'est par les gens de Vercel. Hein, la partie vraiment Next, elle est assez impressionnante aujourd'hui pour faire des applications React. Là où au début, j'étais un peu plus sceptique de React, parce que React avait son succès, mais c'était pas forcément tout le temps en TypeScript et c'était pas forcément hyper complet. Et donc du coup, on devait combiner du différentes librairies et c'était à nous de faire un peu le yo-yo, de s'assurer que tout marche ensemble. Et bien là, maintenant, avec Next, c'est vraiment, vraiment un candidat de choix, surtout qu'il y a des migrations qui sont très facilitées d'une appli React vers Next. Et là, on passe de la simple librairie de rendu à un framework vraiment complet, quoi. Et je pense qu'on peut vous parler autrement d'une petite solution aussi qui existe, qui s'appelle Astro, ou AstroBuild, peu importe comment on la nomme, qui en fait va prendre les frameworks assez classiques. Donc il n'y aura pas d'Angular, parce qu'Angular, ils utilisent des balises custom, etc. Mais qui va prendre voilà, du React, du Preact, du Vue, du Svelte, du Lit, du Alpine, et du Solid aussi. Et en fait, va transformer ces applications qui seront plutôt en SPA et va faire un certain nombre d'optimisations et potentiellement la passer en génération statique. Voilà. Donc ça, c'est un petit... on vous mettra le lien, je pense, aussi de Astro. Astro, c'est le petit truc sympa aussi. C'est-à-dire que vous avez fait votre blog en React, et ben vous mettez Astro par-dessus et puis hop, ça vous fait des petites pages statiques. C'est pas mal, quoi. Pour la mise en cache, c'est mieux, quoi.
Et c'est la fin de cet épisode de Frontend Chronicles. J'espère que vous aurez passé un bon moment et que bah, vous n'avez pas trop marre des Jamstack. C'est un petit peu aussi dans l'air du temps, donc voilà. Et Denis, tu souhaitais nous dire, nous teaser le sujet du prochain épisode de Frontend Chronicles.
Et oui, petit sujet Frontend Chronicles. Alors, ce ne sera pas forcément très axé front-end, mais au final, c'est quelque chose qui nous impacte quand même au quotidien de développeur front. On va discuter des package managers en JS, qu'on va parler de NPM, de Yarn, de PNPM, et peut-être de l'avenir aussi de tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui doivent bouger?
Et pourquoi on a un package.lock?
Exactement.
Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des notes à la fois sur Spotify et sur Apple Podcast. Et sur ce, on vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes en vacances, de futures bonnes vacances si vous allez y aller, ou bon retour au travail pour les autres.
Exactement.
Voilà.
On se retrouve en septembre. Salut.
Allez, salut.